Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de l'ogresse de la Goutte d'Or. Une femme qui s'appelle Jeanne Weber et qui, au début des années 1900, d'abord à Paris et puis dans le Berry, avait un goût prononcé pour le coup des petits enfants. Elle en aurait étranglé 5. Je dis « aurait » parce que la diablesse a réussi à passer entre les mailles de la justice. Pour le débrief, j'ai invité Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. La réalisation est signée Céline Leprince.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voilà en mars 1905, dans le quartier de la Chapelle, à Paris, au fond d'une ruelle qui s'appelle le Pré Maudit. Maudit, tu l'as dit. Aujourd'hui, Jeanne Weber, une bretonne installée à Paris depuis 20 ans, est venue garder sa petite nièce, 9 ans et demi, Georgette.
Je m'en vais au lavoir, ma Jeanne. Alors je te laisse Georgette, mais la perd pas des yeux, hein, surtout, elle a 1 an et demi, et elle commence à trotter partout. À tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je m'en occupe tout bien comme il faut.
Et la mère s'en va laver son linge. Quelques temps plus tard, une voisine entend la Jeanne qui hurle.
Au secours ! Au secours !
La voisine déboule dans la seconde et elle trouve Jeanne, les mains posées sur la poitrine de la petite Georgette.
La petite a fait un malaise. Mon Dieu ! Mon Dieu !
Effectivement, la petite a la langue qui pend, elle semble avoir du mal à respirer. Et ce qui intrigue tout de suite la voisine, c'est ce foulard que la petite porte autour du cou.
Mais il est bien trop serré, ce foulard. Mais non, il est très bien comme ça.
On a prévenu la mère qui accourt, et dès que la petite passe dans ses bras, elle retrouve son souffle. Ça va mieux. Du coup, la mère retourne la voir finir sa lessive. Trois quarts d'heure plus tard, ça recommence. Georgette a de nouveau du mal à respirer. Et quand sa mère arrive en courant du lavoir, elle est morte. Morte ! Et tout le monde remarque qu'elle a le cou violacé. Ce qui n'empêche pas le médecin de délivrer un permis d'inhumer. Une semaine plus tard, la même Jeanne Weber garde Suzanne chez elle, passage de la Goutte d'Or, juste en dessous de Montmartre. Suzanne a 2 ans et demi et c'est la grande sœur de Georgette qui vient tout juste de mourir. Et à nouveau, il y a un problème. On prévient le père qui est camionneur sur un chantier qui arrive en courant.
Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle s'est sentie mal d'un coup.
Et pour sûr, elle va mal. Elle a les yeux révulsés et de l'écume aux lèvres. On dirait qu'elle s'est empoisonnée. Alors on lui donne un vomitif. Et ça va mieux. Et le père repart travailler. Quelques heures plus tard, on le rappelle. Suzanne est morte. Cette fois, le commissaire appelé sur place ordonne une expertise médicale. Mais le médecin conclut qu'elle est morte de convulsions. Et donc on l'enterre à côté de sa petite sœur. Décidément, cette famille a bien du malheur. Deux semaines plus tard, la même Jeanne Weber garde chez elle, passage de la Goutte d'Or, une autre de ses nièces, Germaine, qui est encore tout bébé, elle a 7 mois. C'est la cousine de Suzanne et Georgette. La mère la dépose et sort faire une course. Quand elle revient, elle trouve la Jeanne penchée sur le berceau.
C'est la petite. Elle suffoque.
La mère court tout de suite chercher de l'aide. Et quand elle revient, Germaine est morte. Trois enfants morts en 15 jours. Ça tombe comme à gravelotte dans cette famille. La faute a pas de chance, sans doute. Un peu plus tard, la Jeanne invite une de ses belles-sœurs à déjeuner. Et l'autre débarque chez elle avec un petit garçon de 2 ans, Maurice. Et pendant le repas, la Jeanne est bizarre. Elle dit qu'elle a peur.
« Ah ben les gens parlent sur moi. Il y a des racontars. On dit que j'ai tué mes enfants. La police est après moi. »
La mère du petit Maurice, manifestement, n'a aucun doute sur Jeanne, puisqu'elle lui laisse Maurice le temps d'aller faire une course. Quand la mère revient, le petit garçon a le visage tout congestionné. La mère l'emmène tout de suite à l'hôpital, où il est pris en charge par un jeune interne, et heureusement, le gamin est sauvé. L'interne a bien remarqué des marques sur le cou, mais ça n'est qu'un interne, et son chef de service ne donne pas suite. En revanche, les parents, ça commence à les chatouiller. D'abord les 3 petites filles, et maintenant Maurice, ça fait beaucoup. Alors ils vont au commissariat de la Goutte d'Or avec les parents des 3 premiers.
« Monsieur le commissaire, notre belle-sœur, Jeanne Weber, elle a étranglé nos enfants. Étranglé.
Et sur quoi vous basez-vous pour formuler une accusation aussi effroyable ?» Et les parents se mettent à égrener la liste des morts suspectes. Mais il n'y a pas que ça.
« Ce que vous devez savoir, monsieur le commissaire, c'est que ses propres enfants à elle sont morts aussi. » Et il y a peu de temps, sa gamine est morte il y a 4 ans, soi-disant d'une pneumonie aiguë. Et son fils de 7 ans est mort il y a 1 semaine d'une diphtérie. Et sa petite dernière n'a vécu que quelques semaines. Vous trouvez pas ça bizarre, monsieur le commissaire?
Oui, effectivement, il trouve ça bizarre. Et donc il convoque Jeanne Weber. Quand elle arrive, elle est remontée comme une pendule. Elle a l'air folle, folle.
Oh, mais tout ça, c'est des menteries. C'est des gredins, tout cela qu'on dit ça.
Des gredins, peut-être. N'empêche que le commissaire l'envoie dormir au dépôt. Et la Jeanne se retrouve le lendemain devant le juge d'instruction. Là, elle est beaucoup plus calme. La mégère a remballé son hystérie. Mais elle nie toujours.
Moi ? Étrangler ça, petit ? Moi qui les aime tant ? Ben, c'est impossible, enfin !
Impossible, peut-être, mais elle va quand même dormir à la prison de Saint-Lazare. Et au regard des présomptions concordantes qu'il y a dans son dossier, le juge la renvoie devant la cour d'assises pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur 4 enfants, ses 3 nièces et son neveu. Elle risque la guillotine. On ne voit pas comment elle pourrait y échapper. Mais la Weber, voyez-vous, a plus d'un tour dans son sac. Entre-temps, la presse qui se régale de ce genre d'histoire lui a trouvé un petit nom à la Weber. L'ogresse de la Goutte d'Or. Et autant vous dire que pour voir l'ogresse, il y a foule au palais de justice de Paris. Sauf que physiquement, quand elle entre dans le box, elle n'a strictement rien d'une ogresse. On s'attendait à une sorcière, forcément. On se retrouve face à un petit bout de femme d'une 30aine d'années, certes laide et vulgaire, avec des joues molles et des yeux quelconques, comme l'écrivent les chroniqueurs de l'époque. Mais modeste et effacée, pas du tout l'allure d'une étrangleuse d'enfants. Le président de la cour d'assises de Paris commence par lui présenter l'addition.
« Chaque fois qu'un enfant vous est confié, il lui arrive malheur. Et toujours les mêmes symptômes se produisent. Vous éloignez les parents, vous avez l'enfant dans vos bras, il meurt, son cou est violacé, ses yeux sont révulsés, et tous les témoins s'accordent pour noter que vous tenez obstinément vos mains sur la poitrine des pauvres petits. »
Pas facile de s'opposer à ce constat implacable. Elle essaie néanmoins.
« Mais Georgette était déjà malade ? Peut-être, peut-être. Mais Suzanne est morte dans les mêmes conditions que sa sœur. »
À partir de là, Jeanne se tait. Son avocat, en revanche, Maître Robert, est un coriace.
Il est bon, monsieur le président, de faire remarquer au jury que la science nie la possibilité d'amener la mort par pression du thorax. Je vous prie, Maître Robert, de ne pas m'interrompre. Je parlerai toutes les fois que jugerai utile de le faire. Eh bien, je lèverai l'audience. Eh bien, quand vous la rouvrirez, monsieur le président, je reprendrai la parole.
Après quoi, l'avocat se tourne vers le père de l'une des petites victimes.
Dites-moi, monsieur, les maladies cardiaques ne sont-elles pas fréquentes dans la famille de votre épouse? C'est-à-dire oui. Oui, elles sont fréquentes.
Et un point pour la Weber. On fait ensuite venir des médecins, et c'est un moment clé. S'ils disent que les enfants ont été étranglés, elle est bonne pour la guillotine. Le premier à venir à la barre est le médecin en chef de l'hôpital où le petit Maurice a été soigné.
Je n'ai pas, comme on me le fait dire, prononcer le mot de strangulation. J'ai dit constriction, ce qui est bien différent. Il serait impossible de trouver dans mon diagnostic un motif d'accusation. Impossible.
La Weber marque un deuxième point. Vient ensuite le professeur Toineau, médecin légiste. C'est lui qui a autopsié les trois enfants morts après qu'on les ait exhumés. Et le président lui pose la question.
Docteur, est-il possible de voir l'action d'une main criminelle dans la mort de Georgette, de Suzanne, de Germaine et dans l'accident qui a failli être fatal au petit Maurice? Non, strictement non. Si la mort était survenue par strangulation, nous aurions vu des lésions à la partie externe du cou des trois enfants morts. Or, il n'y avait pas de lésions.
C'est clair, c'est net, c'est carré, et encore un point pour la Weber. Et c'est pas fini, car le légiste Toineau ajoute
« Nous avons découvert dans les bronches de Georgette un ganglion. Un ganglion qui nous permet d'attribuer sa mort à la tuberculose. Et pour nous, Maurice et ses trois petites cousines ont eu des convulsions. »
Pour la Weber, c'est le jackpot. Au point que l'avocat général est contraint de battre en retraite.
En l'état de l'affaire, je considère que le ministère public ne fait pas la preuve de la culpabilité. L'innocence de Madame Weber devra donc être reconnue par tous comme certaine. Messieurs les jurés, je vous demande l'acquittement de Jeanne Weber.
Un avocat général qui demande un acquittement, je vous jure que même en 1906, c'est extrêmement rare. Les jurés délibèrent pendant 10 petites minutes et à la fin, Jeanne Weber est acquittée. Les parents des gamins sont furieux.
Oh, mais il n'y a plus de justice. Elle recommencera.
Des visionnaires, les parents. En attendant, Jeanne est libre. L'ogresse de la goutte d'or rentre chez elle la tête haute. Mais si elle a convaincu les jurés, son mari ne veut plus la voir. Et les voisins, c'est tout pareil. Pour eux, c'est toujours l'ogresse. Quelques temps plus tard, Jeanne Weber grimpe sur le parapet d'un pont et se jette dans la Seine. On la repêche à temps, la pauvre a voulu se suicider. Et les journaux, évidemment, se régalent de ce rebondissement inespéré. Et du coup, la Jeanne retrouve dans le regard des autres un peu d'humanité. C'était une ogresse, et maintenant c'est une pauvre femme, malheureuse de tout ce qu'on lui a fait subir. Et dans le Berry, un paysan veuf, Sylvain Bavouzet, qui a suivi toute cette affaire par le journal, se prend de pitié pour elle et il lui écrit une lettre. « Chère madame, j'ai suivi par les journaux tous les malheurs qu'on vous a faits et suis bien heureux que la vérité ait triomphé. J'habite le village de Chambon et serai très heureux que vous veniez vous installer chez moi. Vous pourriez ainsi vous occuper de mes enfants. Afin que vous n'ayez pas d'ennuis, nous pourrions dire ici au village que vous êtes une cousine de ma pauvre femme disparue. » Il veut qu'elle s'occupe de ses enfants. Mais il est tombé sur la tête, le pécor. Heureusement, ils sont grands. Germaine a 16 ans, Louise 11 ans et le petit Auguste 9 ans. Mais quand même, c'est très risqué. Et voilà donc la Weber qui débarque à Chambon. Pour avoir la paix, elle a repris son nom de jeune fille. Désormais, elle se fait appeler Jeanne Moulinet. Et tout se passe bien pendant 6 semaines. Mais pas un jour de plus. Le 19 avril 1906, l'aînée des enfants Bavouzet, Germaine, se présente toute retournée à la gendarmerie.
« Moi, je m'en viens vous voir parce que la femme que mon père a fait venir chez lui, elle a étranglé mon petit frère, Auguste. »
Le gendarme est circonspect. Mais la gamine a mieux que ça.
« Cette femme, elle fait passer pour une cousine de ma mère. » Mais en fait, elle s'appelle Jeanne Weber. Mon père m'a défendu d'en parler. Elle a déjà tué 4 enfants. Je l'ai lu dans le journal.
Et là, elle tente aux gendarmes une page du Petit Parisien. On y parle de l'ogresse de la Goutte d'Or. Et il y a une photo. Et c'est bien elle. C'est la Jeanne. Asseyez-vous donc, mademoiselle. Et racontez-moi ce qui s'est passé.
Eh ben voilà, c'était avant-hier. Mon petit frère Auguste, il est rentré de l'école bien fatigué. Alors Jeanne, elle l'a mis au lit. Et plus tard, quand mon père, il est rentré, il a trouvé Auguste qui suffoquait, comme s'il ne pouvait plus respirer. Et le lendemain matin, eh ben, il a vu cette Jeanne penchée sur le corps de mon petit frère. Elle avait les mains sur sa poitrine et il était mort. Et moi, je viens vous voir parce que maintenant, j'ai peur pour nous. J'ai peur pour moi et ma petite sœur.
Les gendarmes commencent discrètement une petite enquête. Et pendant ce temps, figurez-vous que la nouvelle remonte jusqu'à Paris. Un correspondant du journal Le Matin a prévenu sa rédaction. Un reporter de Paris vient d'arriver et il est allé la voir.
Allô Paris, pouvez-vous me passer une sténographe okay, que je lui dicte mon article. Je patiente. Allô. Bonjour mademoiselle. Voici mon texte. J'ai vu cette femme. Point. J'ai fixé longuement cette figure ronde, virgule, légèrement colorée au front barré d'un pli dur, virgule, mais chose troublante, virgule, je n'ai pu supporter longuement l'éclat de son regard. Point. Au dehors, virgule, le chant d'un pinson qui s'enivre de lumière et de printemps. Point. Jeanne Weber, virgule, elle, virgule, n'est que ténèbres. Point.
Ils sont mignons, les journalistes. Après avoir fait passer la Jeanne pour une pauvre femme, voilà qu'ils nous ressortent l'ogresse. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Pendant ce temps-là, les gendarmes vont voir le médecin qui a examiné le petit Auguste.
« Cette mort, docteur, vous la trouvez suspecte ?»«
Ah, c'est-à-dire, il y avait des marques autour du cou. »«
Tiens, tiens, des marques autour du cou. Le parquet demande une autopsie. »«
Alors, j'ai d'abord relevé une trace de méningite tuberculeuse. Mais l'enfant n'est pas mort de cela. » Car voyez-vous, j'ai trouvé dans le péricarde des dépôts de sang noir, qui me semblent être le résultat d'un étouffement progressif, ou dirais-je d'une compression du cœur. Et puis tout de même, il y a une empreinte sur le front et sur le cou.
On y revient. Et donc la Jeanne est arrêtée, et en garde à vue, elle est fidèle à elle-même.
J'ai toujours aimé les petits-enfants, et Auguste, j'ai fait tout mon possible pour l'empêcher de mourir.
Selon vous, madame, de quoi est mort le jeune Auguste?
Eh bien, d'une méningite. Quand j'étais à Paris, à la prison Saint-Lazare, j'ai vu souvent des cas de méningite. Alors j'ai pensé que c'était ça.
N'êtes-vous pas frappé, madame, de cette mort venant après tant d'autres, dans des circonstances particulières auxquelles vous êtes mêlée?
Mais pourquoi m'avoir empêché de mourir quand je me suis jeté dans la Seine? On trouvait sans doute que j'avais pas assez souffert. C'est la fatalité, monsieur le juge. Je vous le jure.
Le soir même, la Weber est en prison. Et quand elle est emmenée dans le village, on crie « À mort, l'ogresse ! À mort !» En vue du procès qui s'annonce, la Weber reprend le même avocat qu'au procès. Il s'empresse d'exiger une contre-expertise du corps du petit Auguste. Et il réclame qu'elle soit faite par le professeur Toineau de Paris, qui avait blanchi la Weber au premier procès. On déterre donc le cercueil d'Auguste pour une nouvelle autopsie. Elle est réalisée en plein air dans le cimetière. Et voici les conclusions du grand professeur de Paris.
Il est absolument certain que le jeune Bavouzé n'est pas mort de mort violente. Il est certain qu'il est mort de fièvre typhoïde.
Quand il lit le rapport, le juge est, disons, à moitié convaincu. Il se dit que le légiste n'a pas voulu dire qu'elle était coupable pour Auguste, parce qu'il l'avait dit qu'elle ne l'était pas pour les autres. Il n'a pas voulu se dédire et se ridiculiser. Voilà ce que pense le juge. Et donc, il refuse de la libérer. Et du coup, il se fait traiter de tortionnaire dans la presse et accusé d'acharnement judiciaire. Voilà que maintenant, les journalistes la défendent. Tout est bon dans le cochon, je vous dis. Le juge veut une expertise indiscutable. Et donc, il désigne trois autres experts. Un de Paris, un de Montpellier et un troisième de Bordeaux. Mais 5 mois après le décès, le cadavre du petit Auguste est très abîmé. Il doit donc se contenter de travailler sur les rapports du professeur Toineau. Et ils rendent leur rapport en décembre. Et ils concluent à une mort naturelle.
Il est douteux que l'enfant ait éprouvé des violences du côté du cou, parce qu'il n'y a rien d'impossible à ce qu'il ait succombé aux suites de la fièvre typhoïde.
La Weber est immédiatement libérée et lavée de tout soupçon. Elle rentre à Paris en héroïne dans la voiture des journalistes qui l'ont soutenue. Tout est bon dans le cochon, je vous dis.
Et là, il se passe quelque chose d'hallucinant. Figurez-vous qu'à Paris, un magistrat philanthrope, le juge Bonjean, décide de prendre la Jeanne sous son aile.
Je considère Madame Weber comme innocente, et je la considère comme particulièrement digne d'intérêt, par le calvaire qu'elle a subi.
Et savez-vous comment il va l'aider ? Il lui trouve un travail. Et savez-vous où ? Dans une clinique pour enfants malades de Fontgombeau. Elle va pas y rester longtemps. Un soir, on la surprend les mains serrées autour du cou d'un petit garçon atteint de la variole. Elle ne peut pas s'en empêcher, la diablesse. On dirait que le cou des enfants lui est irrésistible. Ça n'ira pas plus loin. Mais elle est renvoyée et elle rentre à Paris. Elle est perdue, complètement perdue. Au point qu'à un moment, elle retourne voir le commissaire qui l'avait arrêté la première fois.
Monsieur le commissaire, je suis une misérable. J'ai tué mes nièces et aussi le petit Auguste.
Des aveux. Un peu tardif, mais des aveux. Mais bon, si on ouvre une enquête, on va ridiculiser tous ceux qui se sont mouillés pour la disculper. Et donc on ne le fait pas. On la déclare folle. Ce qui est peut-être la chose la plus juste qui ait été dite jusqu'ici. Folle. Et on la met dans un hôpital pour aliénés. Bon débarras. Sauf qu'un hôpital, eh bien on finit toujours par en sortir. Et c'est ce qui se passe. La Weber, voyez-vous, en a encore sous le pied. Le 10 mai 1908, une certaine Jeanne Moulinet pousse la porte d'une auberge miteuse de Commercy, dans la Meuse. Elle est en compagnie d'un homme. On les installe dans une chambre crasseuse du premier étage. Le lendemain, l'homme n'est plus là. Et Jeanne est toute seule à dormir à l'auberge. Et elle fait une étrange demande aux aubergistes.
Vous pourriez me laisser votre petit Marcel pour la nuit ? C'est que j'aime pas bien dormir toute seule. Mais mon mari sera pas jaloux.
Le petit Marcel a 6 ans. Ah ben les aubergistes le laissent dormir avec la Jeanne. Faut-il vraiment que je vous raconte la suite ? Vers 22h, les aubergistes entendent du bruit dans la chambre. Ils ont la clé, ils ouvrent. Le cadavre de leur petit Marcel gît sur le lit. Il a le visage tout violacé et un filet de sang qui s'écoule de la bouche. Et assise au bord du lit, Jeanne est hagarde.
Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant ?
Rien. Rien, il n'a même pas pleuré. Il est mort. Le petit Marcel est mort. Et cette fois, elle ne peut pas nier. Procureur fait venir un légiste de Nancy. Et pour qu'il n'y ait pas de contestation possible, il lui demande de réaliser son autopsie devant plusieurs témoins et confrères.
Il me paraît absolument certain que ce garçonnet a été étranglé. Bon, il y a d'abord ses marques sur son cou. Et par ailleurs, il y a l'aspect sans appel des poumons et de la trachée. Ils indiquent une mort par asphyxie.
Eh ben voilà, cette fois, elle est cuite. Le soir même, elle dort en prison. Et maintenant, c'est un autre débat qui s'ouvre. Jeanne Weber a-t-elle toute sa tête ? Est-elle responsable de ses actes et donc apte à être jugée ? Ou bien est-elle folle alliée et donc irresponsable ? Auquel cas, il faudra l'interner sans procès. Je vous rappelle qu'on est en 1908. La psychiatrie n'est guère plus avancée que la médecine légale. Écoutez par exemple le verdict de l'un des plus grands criminalistes de l'époque, un Italien, il professore Lombroso. Il a étrangement travaillé sur la photo de Jeanne Weber.
C'est un individu anormal.
son crâne long et microcéphale, son front aplati et sa physionomie virile confirment cette impression. Il s'agit d'une hystérique qui était piloïde et crétinoïde. Épiloïde et crétinoïde. Mais il professore ajoute, et là il est plus convaincant, Jeanne Weber est une pervertie qui, sous l'influence de l'alcool, éprouve une jouissance érotique extraordinaire en étranglant des enfants. Aucune autre explication ne pourrait être donnée à ce crime. Pour en être certain, le juge l'a fait examiner par trois autres médecins aliénistes, comme on dit à l'époque. Et pour eux, ça ne fait aucun doute. Jeanne Weber est atteinte d'aliénation mentale. Et pour être sûre de chez sûr, elle est encore vue par deux autres aliénistes. Ils disent tous les deux qu'elle est irresponsable sur le plan pénal. On la fait donc enfermer sans procès à l'asile de Maréville, près de Nancy. Dernier rebondissement, elle s'évade durant l'hiver 1909. Heureusement, on la retrouve un mois plus tard et on l'enferme à nouveau. Et cette fois, c'est la fin de l'histoire. Elle meurt dans cet hôpital 10 ans plus tard, le 24 août 1918.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.